Alors sur ce, je vous invite à tourner dans la parole dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Les tremblements de terre ont toujours été une source de peur et de fascination pour moi. Et je suis certain que vous avez entendu parler des derniers tremblements de terre qui se sont passés un peu partout dans le monde. Entre autres, en 2016, il y en avait un qui avait coûté la vie à plus de 300 personnes en Italie. Mais dans d'autres endroits dans le monde, on a des tremblements de terre qui finalement tuent des milliers de personnes. Je me rappelle dans les années 80 du premier tremblement de terre que j'ai vécu au Québec. C'est très, très rare au Québec qu'on puisse vivre des tremblements de terre. Mais c'était pas un séisme majeur, c'était tout petit. Mais dans ma maison, eh bien la maison, elle se promenait comme ça, quoi. Et la vaisselle, bien sûr, les tasses qui étaient sur des crochets, eh bien les tasses se promenaient aussi, on les entendait sonner comme des cloches. Lorsque vous réalisez ce qui est en train de vous arriver, eh bien vos sens s'éveillent, vos muscles se raidissent et l'adrénaline qui circule dans tout votre corps vous tient éveillé. Les tremblements de terre sont des événements qui ont le don d'attirer notre attention. Et j'aimerais que nous retournions visiter l'épicentre d'un puissant tremblement de terre d'un genre différent qui est survenu à l'époque de l'Église primitive. C'est pour ça que je vais demander de tourner dans Actes chapitre 30, Actes chapitre 4, les versets 31 à 33. Nous lirons les versets 31 à 33. On va aller au verset 24. Alors, c'est les croyants qui sont réunis ensemble et qui vont faire monter devant le trône de la grâce de Dieu une prière. Cette prière, elle est importante, on va l'examiner de fond en comble ce matin. C'est un modèle pour l'Église de Jésus-Christ. Il est écrit ici, « Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, pardon, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Verset 29. « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant tes mains pour que des prodiges et des miracles s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et qu'est-ce qui est écrit là? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je suis pasteur depuis plus de 20 ans et plus je sers le Seigneur et plus je suis convaincu que si nous voulons faire une différence pour Dieu dans ce 20e, 21e siècle, nous avons besoin de revenir en arrière et apprendre de l'Église primitive. Nous avons besoin de revenir dans le livre des Actes parce que c'est là que nous trouvons le modèle à suivre. L'Église de Jérusalem est passée de 120 à 20 000 personnes en l'espace de quelques semaines. Frères et sœurs, est-ce que ce ne serait pas merveilleux si Dieu répétait ce même scénario aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas merveilleux s'il le faisait pour nos églises en Belgique? Est-ce qu'on dit amen à ça? L'amen, il est facile à sortir de la bouche. OK. Maintenant, est-ce que dans nos cœurs, on y croit? Est-ce que ce qu'on exprime de notre bouche, on y croit? Chers amis, comment nos églises peuvent-elles expérimenter la sorte de victoire dont Jésus a parlé? Là encore, nous avons besoin de suivre les principes énoncés dans le livre des Actes. Et l'un de ces principes, c'est celui de prier avec puissance. Mais voilà, ce n'est pas n'importe quelle sorte de prière, c'est une prière qui a une perspective exigeante, une prière qui a un but divin et une prière qui libère une puissance incroyable. Et je vais vous dire pourquoi c'est important la prière et pourquoi c'est le combat de tous les chrétiens. John Wesley a dit une parole extraordinaire. Il a dit, Dieu répond uniquement en fonction des prières qui lui sont adressées. Si votre vie de prière est nulle, vous ne recevez aucune réponse de la part de Dieu. Si vous n'avez pas un moment de prière, vous n'avez pas une vie de prière, Dieu ne peut pas répondre à vos prières. Parce que quand vous regardez dans la parole de Dieu, Dieu répond. Dieu agit uniquement en fonction des prières de ses enfants. J'aimerais donc vous parler de cette sorte de prière qui ébranlera non seulement l'Église primitive, mais également le monde. Si vous lisez le contexte au chapitre 3, les versets 1 à 11, Dieu va utiliser Pierre et Jean pour guérir un homme boiteux de naissance qui demandait de l'argent. On venait le placer tous les jours à la porte du temple et il demandait l'aumône aux gens qui entraient dans le temple. Et lorsque les gens ont vu cet homme se tenir debout, marchant, sautant et louant Dieu, ils se sont rassemblés autour des deux apôtres et Pierre va prêcher Jésus à ces gens. 5 000 d'entre eux vont croire et vont s'ajouter à l'Église. 5 000 d'entre eux. Pendant que Pierre et Jésus parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, les commandants et le commandant de la garde, les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient au peuple, et annonçaient que Jésus était ressuscité. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Et le lendemain matin, Pierre et Jean ont été amenés devant le Sanhédrin, et le Sanhédrin ne pouvant nier qu'il y avait eu un miracle, ils vont leur défendre absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Chapitre 4, les versets 5 à 18. Rappelez-vous qu'ils comparaissaient devant les puissantes autorités religieuses du pays et qu'ils avaient été témoins de la crucifixion de Jésus. Pierre et Jean vont leur répondre, versets 19 et 20, si vous avez votre Bible au chapitre 4. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Après avoir été relâchés, Pierre et Jean vont se rendre auprès du groupe de leurs amis et ils vont leur raconter tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Quand ils eurent entendu le récit, verset 23 et la première partie du verset 24, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu, cette prière que nous venons de lire. « Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, étends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ça, c'est la prière. C'est la première prière que nous avons gardée, qui nous est conservée dans le livre des Actes concernant l'Église primitive, les chrétiens de l'Église primitive. Luc va écrire ce qui s'est passé suite à leur prière dans les versets 31 à 33. « Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La multitude de ceux qui avaient cru était parfaitement unis de cœur et d'esprit. » Et c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions ou une grâce extraordinaire. Frères et sœurs, ne souhaiteriez-vous pas que l'on dise cela de nos églises? Si nous suivons les principes que nous retrouvons dans cette prière, je suis convaincu qu'on va voir cela arriver. J'aimerais donc voir avec vous trois choses concernant leur prière, une prière qui fut tellement puissante que Dieu a répondu « Amen » en faisant trembler l'endroit où il se trouvait. Ça, c'était la réponse de Dieu. Frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui cherche des méthodes, cherche des nouveaux moyens. Le moyen et la méthode, elles se trouvent dans le livre des Actes, c'est toujours la même méthode. Si le Saint-Esprit n'est pas dans nos méthodes, si le Saint-Esprit n'est pas dans nos moyens, eh bien, on nage dans le gaz. On nage à l'encontre complètement de ce que la parole nous dit. Et c'est intéressant qu'on revienne au livre des Actes. Pourquoi? Parce que l'Église en général, s'est éloignée du but pour lequel elle a été créée. L'Église, ce n'est pas un lieu de divertissement. L'Église, c'est la seule institution que Dieu a donnée au monde pour pouvoir entendre parler de l'Évangile qui sauve, qui empêche les gens d'être jugés. Et l'Église, souvent, s'est éloignée de ce message pour plaire au monde et non pour plaire à Dieu. Et la perspective de cette prière, regardez versets 24 et 28. Premièrement, j'aimerais que vous remarquiez la règle qui est respectée dans cette prière. C'est une règle fondamentale pour tous et chacun. Je vais vous dire pourquoi. Si nous voulons prier avec puissance, si nous voulons que Dieu manifeste sa présence, si nous voulons qu'il ébranle l'Église, nous devons respecter une règle capitale que nous retrouvons dans les versets 24 à 28. Les chrétiens de l'Église primitive voyaient Dieu comme étant un souverain et eux comme étant des serviteurs. Frères et sœurs, j'entends des prières. Hein? Je me promène, j'entends des prières. Hein? C'est incroyable. Il y a des gens qui ordonnent au Seigneur. C'est pas eux qui se mettent aux genoux du Seigneur. Tu écoutes la prière des gens et tu as l'impression que c'est eux qui demandent à Dieu de se mettre à leurs genoux. Quoi. Ouais. On a perdu de vue qui est Dieu. Quoi. Dieu, c'est un papa. Dieu, c'est un papy. Mais Dieu, là, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est l'Éternel des armées. C'est celui qui a toujours existé. Hein? C'est pas juste papa à notre niveau, hein. On a perdu de vue la dimension, la grandeur, la toute-puissance de Dieu, hein. Ouais. Et on a besoin de revenir à ça. L'Église primitive. Pour l'Église primitive, Dieu, c'était le Tout-Puissant. Dieu, c'était un Dieu souverain. Dieu, c'était le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées. C'est lui qui dirigeait l'Église à travers la personne de Jésus-Christ. Ils voyaient Dieu comme étant le Créateur Tout-Puissant. Ils avaient une bonne compréhension de qui était Dieu. Ils dirent, « Seigneur, nous savons que le grand prêtre et les 70 membres du Sanhédrin ont un certain pouvoir. Mais toi, Seigneur, tu es le Créateur, tu as créé toutes choses et tu es le Tout-Puissant. » Est-ce que vous êtes en amène à ça? Frères et sœurs, quelle est votre perception, frères et sœurs, quelle est votre perception de Dieu ce matin? Quelle est votre perception de l'Église ce matin? Frères et sœurs, est-ce que vous vivez l'Église, la communauté uniquement le dimanche matin ou tous les jours de la semaine? Est-ce que nos enfants nous voient vivre l'Église à la maison, jour après jour, dans nos foyers? Bien, c'est ça l'Église, frères et sœurs. Et ça aidait beaucoup les chrétiens à l'époque parce qu'ils se réunissaient jour après jour pour louer, pour prier, pour partager ensemble. Est-ce que vous réalisez que nous servons le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Écoutez bien ce que Ésaïe dit dans au chapitre 40. Celui qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer. Frères et sœurs, je vous mets au défi d'être capable de garder deux gouttes d'eau dans votre main puis de vous rendre jusqu'à la porte en arrière en avant sans en échapper une. Ésaïe nous dit que Dieu tient dans le creux de sa main le volume de la mer, qu'il a évalué de ses doigts écartés le diamètre du ciel, qui a estimé la masse de la poussière de la terre, qui a pesé sur la balance les montagnes et les collines. Est-ce que vous réalisez que le Dieu que nous servons est celui qui a divisé les eaux en deux pour faire passer Moïse et son peuple? Est-ce que vous réalisez que le Dieu que nous servons, c'est celui qui a fait s'écrouler les murs de Jéricho? Est-ce que vous réalisez que celui que nous servons a livré Goliath, un petit berger minable qu'il a méprisé? Est-ce que vous réalisez que ce Dieu que nous servons est celui qui a délivré trois personnes dans la fournaise ardente, trois personnes de foi qui étaient dans la fournaise ardente? Et Dieu était au milieu du feu avec les trois personnes. Parce que quand on a ouvert les portes, on avait placé trois personnes dans le feu, il y en avait quatre quand on a ouvert les portes. Jésus était au milieu pour les protéger. Les soldats qui ont ouvert les portes ont brûlé à cause de la chaleur. Et quand on a sorti les trois hommes, eh bien, ils ne sentaient même pas le brûler. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez quel Dieu nous servons? Est-ce que vous réalisez que ce Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ? Est-ce que vous réalisez que Jésus-Christ n'est pas seulement homme, il est 100% homme, il est 100% Dieu? Est-ce que vous réalisez dans quel sentiment d'humilité Dieu a quitté son trône de grâce pour se faire homme dans la personne de Jésus-Christ? Et tout ce qu'il a reçu, c'est des moqueries, des insultes, des crachats. Et ça s'est terminé sur la croix. Pour des gens qui ne le méritaient pas, frères et sœurs. C'est extraordinaire quand vous regardez ça. C'est extraordinaire. Que ce Dieu est celui qui commande aux vents et aux vagues, qui chasse les démons, qui ressuscite les morts. Et ce Dieu, c'est celui qui exécutera un jugement à la fin des temps. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu majestueux, c'est un Dieu glorieux, frères et sœurs. Il est le Dieu vivant et à côté de lui, il n'y en a pas d'autre, nous dit la parole. Amen. Alors l'Église va prier, « Seigneur, les gens que nous ont menacés ne sont que de simples créatures, mais toi, Seigneur, qui es Dieu, tu es le Créateur. Alors, Seigneur, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, parce que c'est toi qui as tout créé. » Frères et sœurs, ils fixaient leurs yeux non pas sur ce qui était visible, mais sur ce qui est invisible. Ils portaient leur regard non pas sur le pouvoir que possédaient leurs adversaires, mais sur la toute-puissance de ce Dieu Créateur. Frères et sœurs, sur quoi vous portez vos yeux ce matin? Sur quoi vous portez vos yeux? Sur ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui est visible. Eh bien, vous devez avoir des problèmes d'estomac, frères et sœurs. Ça donne des crampes de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Mais si vous gardez vos yeux sur celui que vous ne voyez pas, mais que vous savez qu'il est présent, non seulement sur son trône, mais qui habite aussi par son esprit dans votre cœur, vous êtes en paix, vous avez la joie dans votre cœur. La paix d'avoir été pardonné et la joie du salut, la joie de savoir que vous ne passerez jamais en jugement parce qu'en Jésus-Christ, vous avez été pardonné. C'est une décision que vous avez prise personnellement. Alors, l'Église va prier, Seigneur, les gens qui nous ont menacés. Non, on va continuer. Deuxièmement, non seulement voyait-il Dieu comme étant le Créateur Tout-Puissant, mais comme étant le Seigneur, le Souverain absolu. Frères et sœurs, Dieu n'a pas seulement créé l'univers et fait en sorte que tout cela tourne pour le mieux. Il est toujours très impliqué dans sa création et il dirige toutes choses. Il est en contrôle de tout et rien ne lui échappe. Vous n'avez qu'à lire à nouveau les versets 27 à 28. Et comme l'apôtre Pierre l'a dit dans son épître, « où est Dieu qui dit qu'il va arriver telle chose? » Frères et sœurs, Dieu ne se manifeste pas aujourd'hui. Mais Dieu travaille. Dieu continue à travailler. Dieu ne se montre pas physiquement. Dieu ne se montre pas de façon visible. Mais Dieu continue à travailler. le dernier livre de l'Ancien Testament jusqu'au premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, pendant 400 ans, on n'a pas entendu parler de Dieu. Et pourtant, Dieu travaillait, Dieu préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, on n'entend pas parler de Jésus aujourd'hui. On n'entend pas parler de Dieu aujourd'hui, pardon. Mais je suis persuadé que Dieu est en train de préparer le retour du Seigneur Jésus. Amen. La façon dont ils s'adressèrent à Dieu démontre comment ils voyaient Dieu. Regardez ce qui est écrit au verset 24. Ils élevèrent à Dieu la voix et dirent tous ensemble, « Seigneur ». Voilà donc ce que ces chrétiens ont fait. Ils se sont rassemblés pour prier face à ce danger qu'ils couraient. Se rappelant le jour le plus sombre de leur vie, où tous leurs espoirs et leurs rêves furent cloués au sur cette croix, pensant que tout est perdu pour eux. Mais voilà, ils ont vu Jésus vaincre la mort et sortir vivant du tombeau comme il l'avait promis. Ils l'ont vu monter au ciel pour aller s'asseoir à la droite du Père, juste comme il l'avait promis. Et ils ont expérimenté ce jour-là le Saint-Esprit qui est venu avec puissance, tout comme Jésus l'avait promis. Ils savaient donc que tout se déroulait selon le plan et le but établi par Dieu, par ce Dieu souverain. C'était exactement ce que Dieu avait prévu avant même la fondation du monde. Corrie ten Boom a souffert dans les camps de concentration d'Hitler. Elle a perdu plusieurs membres de sa famille et pourtant elle fut un brillant témoignage pour Jésus-Christ. Elle a dit ceci un jour, « Dieu ne panique jamais au ciel, il suit seulement le plan qu'il a établi. » C'est bien ça, hein, comme parole. Nous, on peut paniquer, hein? Nous, on peut déroger du plan que Dieu a prévu pour nous. Mais Dieu au ciel ne panique jamais. Il a un plan, et même les païens, même les non-croyants, sans le savoir, à travers leur projet, ils sont en train de marcher dans le plan de Dieu. Un pasteur qui est décédé, qui habitait aux États-Unis, il dit, « Les trois personnes de la Trinité ne siègent jamais en session d'urgence. » Ça aussi, c'est bien, hein? Ouais. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais pris de court face à ce que les hommes peuvent faire. En fait, lorsque Jésus-Christ révéla certaines choses à Jean dans Apocalypse 4 et 5, Jean vit le ciel. Et la première chose qui l'a frappé, c'est que Dieu était assis sur son trône. Et frères et sœurs, si on avait une vision, si Dieu pouvait ouvrir les cieux et voir ce qui se passe dans le ciel, frères et sœurs, Dieu est toujours assis sur son trône. Amen. Dieu contrôle l'univers. Dieu dirige l'univers. Et il n'y a personne qui peut le faire partir de sur son trône. Dieu tient bien les choses en main et rien n'échappe à son contrôle. Et cette perspective vous amènera à apprendre. Et je vais vous dire pourquoi c'est important qu'on voit Dieu comme étant ce créateur tout-puissant. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça va vous amener à gérer vos problèmes de manière tout à fait différente hein, si vous vous rappelez que Dieu est le créateur tout-puissant et le souverain absolu. Vous prononcerez alors une prière qui ébranlera l'Église lorsque vous prierez cette sorte de prière à Dieu. Non seulement ils savaient, ces croyants, qu'ils étaient qui était Dieu, mais ils savaient ce qu'ils étaient. S'ils étaient des serviteurs, ce mot signifie littéralement un esclave. Mais dans le grec, quand vous grattez dans le grec, c'est un esclave soumis à son maître. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes là pour te servir. En d'autres mots, ils sont en train de dire dans leur prière, « Seigneur, accorde à nous qui te sommes soumis de pouvoir annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Permettez-moi de vous dire que la principale raison qui fait en sorte que beaucoup de prières restent sans réponse, c'est parce que nous ne voyons pas cette différence souvent qui existe entre nous et Dieu. Dieu est notre Seigneur. Nous sommes ses serviteurs et il est le souverain absolu. Il a un plan de prévu et il prend des décisions. Il dit « Allez » et vous allez ». Il dit « Venez » et vous venez. Comme l'apôtre Paul l'a dit si bien dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, « Ayez entre vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui possédait depuis toujours la condition humaine, divine, pardon, n'a pas estimé qu'il devait se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait pour prendre la condition de serviteur. C'est le même mot ici, utilisé, le même mot serviteur utilisé dans le livre des Actes. Des esclaves, ce sont des serviteurs, ce sont des gens qui sont soumis à leur maître. Voulons-nous que Dieu réponde à notre prière, frères et sœurs? Voulons-nous voir Dieu provoquer un vrai réveil et un véritable renouveau? Voulez-vous le voir manifester sa puissance et sa présence? Alors il faut apprendre qui est Dieu et ce que nous sommes. Nous sommes ses serviteurs, nous devons donc nous soumettre à lui comme étant le Seigneur souverain. La meilleure façon de le faire, c'est en se mettant sur nos genoux et en courbant notre tête devant le Seigneur des Seigneurs. Frères et sœurs, même s'il y en a qui font de l'arthrite dans leurs genoux, même s'il y en a qui ont des prothèses dans leurs genoux, s'ils devaient se présenter devant la reine Élisabeth II, devant le président des États-Unis, surtout celui qui est là pour l'instant, ils se mettraient à genoux, ils couperaient la tête, parce qu'ils savent qu'ils sont devant quelqu'un d'important. Frères et sœurs, si on voit Dieu simplement comme notre papy, comme notre papa, on voit de la difficulté à plier les genoux, on voit de la difficulté à baisser la tête. Frères et sœurs, Dieu, c'est le Seigneur des Seigneurs. Toutes les nations lui sont soumises. Frères et sœurs, Dieu, que représente Dieu pour vous ce matin? C'est ça qui détermine, parce que c'est ça qui va déterminer la profondeur de votre vie de prière. Que représente Dieu pour vous ce matin? Regardez les versets 29 à 30 maintenant. J'aimerais examiner maintenant le but de leur prière. Parce que si nous prions dans un mauvais but, nous ne verrons aucune puissance dans notre prière. Regardez ce qui est écrit au verset 29 et 30. Ses serviteurs vont prendre conscience de leur devoir. Ils vont donc prier en ayant trois objectifs en tête. Annoncer la parole de Dieu. Ils ont d'abord prié pour que Dieu leur donne la capacité d'annoncer sa parole. Regardez ce qui est écrit au verset 29. Est-ce là le désir de notre cœur? Obéir à l'ordre donné par le Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. C'est ce qui est écrit. Si nous voulons voir un vrai changement dans ce pays, nous avons besoin d'être des témoins de la grâce de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'évangélisation. Je vous parle de dire aux gens ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la personne de Jésus-Christ. C'est ça, être un digne témoignage de la personne de Jésus-Christ. C'était une obéissance que les premiers chrétiens de l'Église primitive prenaient à cœur de mettre en pratique. Qu'est-ce qui les a mis en difficulté dans un premier temps? Ils annonçaient la parole de Dieu. Pour quelles raisons priaient-ils? Pour la même chose. Ils priaient. Regardez pourquoi ils priaient. Pour que Dieu leur donne plus de courage et plus d'audace. La première partie de leur prière se résume à ceci. Seigneur, nous avons eu des ennuis parce que nous avons annoncé ta parole. Seigneur, donne-nous maintenant du courage pour que nous puissions continuer à parler de toi. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous empêcher que les gens nous causent des problèmes. Il est venu pour nous soutenir lorsque nous aurons des problèmes. Il a dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et ça détruit l'écuménisme. Le dialogue interreligieux, Oui. Parce que pour être capable de travailler ensemble, il faut avoir le même esprit. Je regrette, mais dans le dialogue interreligieux, on n'a pas du tout le même esprit. Dieu, les églises définissent leur Dieu comme bon leur semble. Mais on est en train de parler du Dieu de la Bible, du Dieu qui ne fait pas aucun compromis avec sa parole. Dieu, donne-nous du courage, donne-nous de l'audace. Et on en a tous besoin, le pasteur en premier lieu. C'est pas naturel. On est des étrangers sur terre, des pèlerins. C'est pas naturel de parler de celui qui fait notre bonheur. C'est pas naturel de parler à des gens qui connaissent pas Jésus, de leur parler de ce qui fait notre joie, notre paix. C'est pas naturel. Et il est important dans notre prière le matin de dire, Seigneur, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec puissance. Seigneur, j'ai peur, mais toi, Seigneur, tu es là. Frères et sœurs, c'est ma prière depuis des mois, ça. Actes, chapitre 4. Frères et sœurs, on peut se bomber le torse, il y a beaucoup de monde dans la salle ce matin. Mais spirituellement, que représente l'Église aujourd'hui? Spirituellement, quel est l'état d'âme de l'Église aujourd'hui? Ce n'est pas le nombre qui détermine la spiritualité, le degré de spiritualité de l'Église, frères et sœurs. C'est ce que nous vivons en nous. C'est ce que nous vivons en nous, c'est la place que Jésus-Christ occupe, C'est l'intérêt qu'il représente pour nous à chaque jour, frères et sœurs. Et c'est ce qui faisait la force de l'Église primitive. Pensez à l'apôtre Paul. Partout où il allait, frères et sœurs. En tout cas, Paul, j'ai hâte de lui donner d'arriver au ciel puis lui serrer la main, Ouais. Partout où il allait, c'était soit une émeute ou un réveil. Moi, je vais lui donner la main, Je lui donnais la main. Lui gardait ses yeux sur la bonne personne. Et je pense que dans le ministère particulier que Dieu lui a réservé, c'est pas pour rien que dans une vision, il est monté jusqu'au troisième ciel. Dieu lui a révélé des choses qui lui étaient pas permis de nous dire, mais je pense qu'il en avait besoin pour se fortifier dans la tâche que Dieu est en train de lui préparer. Il avait besoin de cette vision-là, l'apôtre Paul. Lorsque vous lisez le livre des Actes, les disciples ont rencontré des difficultés. Voilà pourquoi ils priaient dans un but bien précis. Ils demandaient au Seigneur de leur donner du courage pour qu'ils parlent de lui à ce monde. Verset 30, regardez, ils priaient non seulement que Dieu leur donne la capacité d'annoncer sa parole, mais qu'il étende sa main. Jésus est maintenant au ciel et ils priaient, Seigneur, étends ta main. Quelle main? De quelle main ils parlaient? Jésus avait leur main. Ils étaient en train de dire, Seigneur, non seulement fais ce que nous voulons avec nos bouches, mais fais en sorte que notre main soit ta main. Et Dieu a répondu à la prière. Regardez ce qui est écrit au chapitre 5, verset 12. Regardez pour ceux qui ont leur Bible. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils priaient, étends ta main, par les mains des apôtres. Il est bien écrit que c'est par les mains des apôtres que Dieu accomplit ses miracles et ses prodiges. Frères et sœurs, même si le Seigneur Jésus est monté au ciel, il a toujours un corps sur la terre et ce corps, c'est son Église. Nous sommes ses mains, son cœur, ses pieds, ses lèvres. Et il veut manifester qu'il est Dieu fait homme en manifestant sa toute-puissance à travers vous, à travers moi. Êtes-vous disponible pour lui, frères et sœurs? Avez-vous l'habitude de prier en disant, « Seigneur, ses mains sont tes mains. Peu importe ce que tu veux faire à travers moi, je suis disponible. » Frères et sœurs, est-ce là votre engagement? C'est l'engagement d'un serviteur. On devient membre d'une église locale pour servir. Pour s'investir dans le corps de Christ. Vous pensez peut-être que vous êtes la petite orteille dans le corps de Christ. Vous pensez peut-être que vous êtes la grosse orteille dans le corps de Christ. Ben, allez parler à quelqu'un à qui on lui a coupé la grosse orteille. Il y a de la difficulté à garder son équilibre. Et si la grosse orteille qui est dans cette salle ce matin n'a pas pris sa place dans le corps de Christ, l'Église a de la difficulté à trouver son équilibre spirituel. Parce que vous faites partie du corps de Christ. Ce n'est pas pour rien qu'on décrit le corps de Christ, on utilise l'image du corps de Christ pour les membres de l'Église. Chacun a sa tâche bien spécifique. Et en haut des épaules, ce n'est pas compliqué, on ne cherche pas qui est appelé, c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église. Voici leur prière, Seigneur, nous voulons annoncer ta parole, nous voulons que tu étendes ta main. Voici la troisième chose pour laquelle ils ont prié, Seigneur, nous voulons être en parfait accord avec ta volonté. Nous voulons que ta bouche soit notre bouche, que ta main soit notre main et que ton cœur soit notre cœur. Frères et sœurs, est-ce que c'est là votre disposition ce matin? Regardez ce qui est écrit à la fin du verset 30. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Qu'est-ce que cela signifie prier dans le nom de Jésus? Si je demandais là, ici à quelques-uns de se lever et m'expliquer qu'est-ce que c'est de prier dans le nom de Jésus? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que nous nous présentons devant Dieu avec notre liste d'achats? Et après que nous l'ayons lu, nous disons, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Pensez-vous que c'est une sorte de formule magique qui vous permettra de voir vos prières être répondues? Mes frères et sœurs, on a tellement perdu de vue qu'est-ce que c'est la prière, que souvent c'est une liste d'épiceries qu'on apporte au Seigneur et qu'on la donne au Seigneur, frères et sœurs. Je ne cherche pas à vous condamner, hein? Je me parle, hein? Ça me parle beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de choses que j'ai biffées ce matin que je ne voulais pas dire, hein? Et que représente la prière pour nous? Frères et sœurs, dans l'Église, vous voulez connaître le degré de chaleur spirituelle de l'Église? Venez le jeudi soir et venez voir le nombre de personnes qui sont assises à une réunion de prière. Pas ceux qui assistent au culte le dimanche matin, pas ceux qui assistent à l'étude biblique le mercredi. Venez voir le nombre de personnes qui assistent aux réunions de prière le jeudi. C'est comme ça que vous évaluez la valeur d'une église au niveau spirituel. Dieu n'est pas un papy bonasse qui nous donne tout ce que nous lui demandons. Dieu n'est pas un Père Noël qui nous comble de cadeaux pour satisfaire tous nos caprices. Dieu est le Créateur tout-puissant et le Seigneur souverain. Et en tant que serviteur, en tant que ses serviteurs, nous avons besoin de prendre conscience de cela pour que nous puissions nous aligner avec ses plans et avec ses buts. Prier dans le nom de Jésus signifie que lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, sur la base de notre relation avec toi, à travers le sang versé par ton Fils sur la croix, et conformément à ta volonté, nous nous soumettons à ta toute-puissante autorité. Et c'est pour ton honneur et pour ta gloire que nous prions ces choses. À travers ce que le Père fait, nous voulons que Jésus soit exalté. Nous voulons que Jésus soit adoré. Nous voulons que Jésus soit glorifié. C'était là le but des chrétiens de l'Église primitive, frères et sœurs. Ils priaient que Dieu leur permette de rester en harmonie les uns les autres, en faisant sa volonté pour que Jésus soit glorifié. Est-ce là le but, frères et sœurs, de nos prières? Est-ce dans ce but qu'on prie? Frères et sœurs, on demande à des gens, on donne des sujets de prière à des gens, mais est-ce qu'on prie pour ces sujets qu'on donne aux gens? Comment peut-on penser que Dieu va répondre à nos prières si les sujets de prière qu'on donne à ces gens, nous-mêmes, on n'a pas à cœur de prier pour? Je me suis imposé d'examiner mes propres prières cette semaine. Je vous invite à faire de même parce que je suis convaincu que nous avons besoin d'élever le niveau de nos prières. Nous avons besoin de quitter le domaine de nos désirs égoïstes et élever notre niveau de prière au niveau de la volonté souveraine de Dieu. Troisièmement, la puissance de cette prière. Regardez versets 31-33. On a parlé de la perspective de leur prière et dans cette perspective, ils ont prié dans un but. Voici rapidement le troisième point. La puissance manifestée par Dieu en réponse à cette prière a permis de voir plusieurs choses merveilleuses se produire, frères et sœurs. Verset 31. Il est écrit au verset 31 qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il avait dit dans leur prière, « Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et tends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. » Et frères et sœurs, ils étaient en accord. Ce qu'ils voulaient, c'est demander à Dieu que nous soyons en accord avec ta volonté souveraine. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi ils étaient remplis du Saint-Esprit. Les disciples avaient été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre était rempli du Saint-Esprit à chaque fois qu'il prêchait la parole. Et ils étaient encore une fois remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vais vous poser une question. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Vous répondez pour vous-même. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence à quel moment vous êtes rempli du Saint-Esprit et à quel moment vous ne l'êtes pas? C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je suis persuadé que si cette Église, tous les membres de cette Église étaient remplis du Saint-Esprit, Dieu manifesterait un amen en faisant trembler ce bâtiment. J'en suis persuadé. J'en suis convaincu. Ici, en ce moment, dans le moment où je vous parle, vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Vous avez cette conviction dans votre cœur. Eh bien, adoptez ce modèle de prière et vous le serez. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Verset 32. Un des grands signes qui montre que nous appartenons au Seigneur, c'est notre unité. Le groupe de croyants était parfaitement uni de cœur et d'esprit. Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Frères et sœurs, comment vous manifestez l'amour envers un frère et envers une sœur? Comment vous manifestez l'amour envers tous les membres du peuple de Dieu, Adelin? De quelle façon vous manifestez leur amour? La veille de sa mort, le Seigneur Jésus a prié le Père en disant, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi et eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement unis et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Ça, c'est le verset. Ça, c'est un verset qu'on doit apprendre par cœur. Jésus dit, le Père vous aime comme il m'aime. C'est aberrant. Vous vous demandez s'il n'y a pas une faute de traduction. Est-ce que vous réalisez que le Père, le Créateur de l'univers, le souverain Seigneur, vous aime, vous des pécheurs, graciés par la grâce de Dieu, qui êtes devenus des enfants de Dieu, vous aime autant que celui qui n'a jamais péché? Et pourtant, il nous arrive d'avoir de la difficulté à accepter que quelqu'un nous ait dit une parole qui passe très mal. Il nous arrive de le préférer moins qu'un autre. Il nous arrive de chercher à l'éviter plus souvent qu'à notre tour. Frères et sœurs, le cœur de Dieu, ce n'est pas ça du tout. Dieu ne cherche pas à éviter personne dans cette salle ce matin. Si vous voulez venir à lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu vous aime tous de façon égale aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Est-ce que vous en avez la certitude que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Il y avait une unité incroyable dans l'Église primitive et c'est ce que Dieu veut encore et toujours pour toutes les Églises, plus d'unité. Voilà pourquoi le diable préfère partir plus que toute autre chose des rumeurs et des débats parmi le peuple de Dieu. Nous ne serons peut-être pas nécessairement d'accord sur une version particulière de la Bible ou sur un certain style de musique dans l'Église, mais si nous devons être unis, c'est autour de la personne de Jésus-Christ. Et cela se produit par la puissance de la prière, par la présence du Saint-Esprit. Imaginez à quoi ressemblerait l'Église, frères et sœurs, si tous les membres du peuple de Dieu se tenaient comme un seul homme, parlaient d'une seule voix et agissaient d'une seule et même pensée. Imaginez. Imaginez ce que serait l'Église si tout le monde, se disant chrétien, avait la même priorité. Faire connaître le Seigneur Jésus-Christ quand ils en ont l'occasion. Pas arrêter de travailler puis de partir comme des poules sans tête pour annoncer l'Évangile aux gens, quand ils en ont simplement l'occasion. Imaginez ce que serait l'Église. Imaginez. Cette prière, si elle commence le matin, Dieu va vous mettre à cœur à un moment donné de provoquer des occasions ou de sauter sur les occasions. Donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec assurance. Je suis un peu heureux. Donne-moi de l'assurance. Donne-moi de l'audace. Donne à ton serviteur. Dieu donne. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il a donné son Fils. Dieu donne. C'est extraordinaire. Amen. On est un grand Dieu, frères et sœurs. C'est la prière qui nous aide à produire cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile de prier avec quelqu'un, d'être honnête les uns et les autres, et avec le Seigneur, sans être unis d'un même esprit. Lorsque ces chrétiens priaient, ils étaient unis d'un même cœur et d'un même esprit, nous dit le texte biblique. Non seulement ils étaient remplis du Saint-Esprit, non seulement ils étaient unis, mais il est écrit que c'est avec beaucoup de force qu'ils rendaient témoignage. Regardez le verset, regardez, frères et sœurs, le Saint-Esprit ne vous remplit pas juste pour que vous puissiez vous sentir bien, il vous remplit que pour que vous puissiez rendre témoignage que Jésus est ressuscité. Il vous donne la puissance pour un but bien particulier, Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins. Et pourquoi nous sommes les témoins? Parce que nous avons entendu l'Évangile, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons rencontré Jésus-Christ. Et parce que nous avons rencontré Jésus-Christ, parce que nous croyons en ce qu'il a fait, nous sommes devenus ses témoins. Êtes-vous consacré à ce but? L'Église primitive priait que Dieu leur donne la capacité d'annoncer la parole avec assurance. Et il est écrit que lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils ont continué à rendre témoignage avec puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous savez pourquoi le diable, ça ne le dérange pas qu'on annonce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés? Vous savez pourquoi ça ne le dérange pas? Parce que ça donne toujours une odeur, surtout avec les crucifix. Surtout avec les crucifix, ça donne toujours l'impression que le diable a vaincu Dieu sur la croix. Mais ce qui le dérange, parler de Jésus-Christ ressuscité, vous allez voir qu'on va vous agresser. Vous allez voir que le diable va vous envoyer des gens pour vous décourager. Parce que la résurrection de Jésus, ça démontre que Jésus a remporté une victoire complète sur le diable. Que le diable n'a plus aucun pouvoir sur personne qui veut accepter le message de la croix. aucun pouvoir. Et quand vous lisez le livre des Actes, on n'a jamais empêché les apôtres on les a jamais empêchés de parler de Jésus crucifié, mais on leur a empêché de parler de Jésus ressuscité. Ça dérange les ténèbres, frères et sœurs. Et vous êtes des témoins de cette résurrection. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes témoins de cette résurrection parce que Christ habite en vous, parce que Christ règne en vous et que Christ veut répandre sa lumière à travers vous et avec vous, frères et sœurs. C'est extraordinaire. On a un beau message. Ça dépend comment on te perçoit. Et tout ça, vous savez sur quelle base c'est établi? Sur la façon qu'on voit la vie de prière, puisque Dieu répond uniquement aux prières que ses enfants lui adressent. Frères et sœurs, on vient... Vous savez, moi, je suis un ancien catholique, hein, donc les prix de Dieu, je connais ça. Hein, et vous savez, quand tu lis le Seigneur dans le milieu évangélique, des fois, tu jettes l'eau avec le bébé. Hein. C'est vrai. Mais on aurait besoin d'apprendre de temps en temps à se mettre à genoux. Hein, à se mettre à genoux, hein, puis à courber notre tête hein, devant le Seigneur. Ouais. On aurait besoin. Hein. Se mettre à genoux, hein, c'est un grand geste d'humilité. C'est un grand geste d'humilité parce qu'au départ, c'est un geste qui reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui, quoi. Qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout lui et qu'on lui doit tout. Et Seigneur, je m'abaisse. C'est pas toi qui m'abaisse, je m'abaisse parce que je reconnais ta grandeur, Seigneur. Ouais. Frères et sœurs, nous n'obtenons pas cette puissance à travers des programmes, des méthodes, ou encore en utilisant des astuces ou des gadgets, mais par la prière. La prière et la puissance vont ensemble. Chers amis, il y a une puissance dans son nom. Il y a une puissance dans son sang. Il y a une puissance dans son évangile. Et il y a une puissance dans son Église. Et ma prière, c'est que Dieu ramène dans nos Églises cette puissance qui a été perdue, afin que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées, et que ce pays soit renouvelé afin de vivre comme Dieu demande de vivre, frères et sœurs. Frères et sœurs, un témoin, c'est quelqu'un qui a une rencontre avec le Seigneur ressuscité. Rappelez-vous ce qui avait frappé le Sanhédrin lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Regardez dans Actes, chapitre 4, verset 4. On achève, hein? On est presque rendu à la fin. Regardez Actes, chapitre 4, verset 4. Ah, c'est pas le bon. Bon. 4, verset 13, excusez. Je vais corriger tout de suite. Regardez ce qui est écrit. Bon, je ne décourage pas personne d'aller à l'Institut biblique, c'est pas ça que je veux dire, là, que je vais dire ici. Absolument pas. Mais la meilleure institut biblique, hein, c'est encore l'Église. La meilleure formation, elle se trouve uniquement dans la parole. Regardez ce qu'ils ont dit, regardez ce qu'ils disent. Le Sanhédrin, là, c'est les grandes têtes de l'époque religieuse. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Frères et sœurs, ce qui fait votre force, ce n'est pas un diplôme, c'est votre relation que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouais. C'est notre relation et Dieu a besoin de nous bousculer. Dieu a besoin de bousculer l'Église aujourd'hui. On recommence là, une nouvelle année là, liturgique, là, septembre. Frères et sœurs, pourquoi pas prendre des décisions? Seigneur, bouscule-moi. Seigneur, utilise-moi pour que je puisse te servir pour la gloire de ton nom. Pourquoi pas? Afin qu'on puisse se louer, afin qu'en tant que membre du peuple de Dieu, on puisse se réjouir de voir combien ton Saint-Esprit agit dans les cœurs. Oui. Seigneur, sauve nos enfants. Et si je n'ai pas été un bon témoignage pour mon enfant, je vais aller le trouver, je vais lui demander pardon, parce que je vais lui dire, c'est pas ça la conduite d'un chrétien. Je te demande pardon. On est toujours en train d'attendre que nos enfants nous demandent pardon. On a le droit de leur demander pardon, hein? Je l'ai déjà fait auprès de mes enfants, moi, hein? Ouais. Et ça l'en met un au Seigneur. Parce qu'il savait que j'avais raconté un mensonge. J'ai dit que j'avais raconté un mensonge après. Je suis allé le trouver tout de suite. Tu as raison, je t'ai menti. Vous imaginez si je n'y avais pas été? Il aurait dit, c'est ça un chrétien. Ben, et le Saint-Esprit m'a parlé et ça a pris deux, trois minutes. Je suis allé le trouver, j'ai dit, tu as raison, je t'aurais menti. Je te demande pardon parce que ça ne se fait pas de la part d'un chrétien. Frères et sœurs, la première église que nos enfants fréquentent, c'est le milieu familial. Le premier pasteur que les enfants avec qui sont en contact, c'est le père. On a une très, très grande responsabilité en tant que chrétien pour nos enfants. Et si on a mal fait, si on s'est traîné les pieds, s'il y a autre chose qui est passé, qui a pris la priorité dans nos vies plutôt que la parole de Dieu, on va voir nos enfants et on se dit, écoute, ton père, là, il s'est traîné les pieds, ton père il était religieux pendant des années, il n'a pas été un modèle pour toi, pour t'amener à Jésus-Christ, je te demande pardon. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça va faire dans le cœur de vos enfants, ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut faire dans le cœur de vos enfants, frères et sœurs. On parle souvent du monde qui attire nos enfants, mais souvent, on est un grand empêchement pour que nos enfants acceptent le Seigneur. Il faut regarder dans notre propre cour aussi. Que vous puissiez prendre cette décision ce matin, dire, Seigneur, à partir de maintenant, tu occupes la première place. Et la prière qui est dans le livre des Actes, Seigneur, je vais la répéter jour après jour et faire en sorte qu'elle s'incruste dans mon cœur, qu'elle ne demeure pas uniquement une parole, qu'elle ne se limite pas simplement à une théorie, mais que je puisse voir manifester ta gloire à travers moi, Seigneur. Et que je m'efface. Seigneur, mes enfants ne sont pas sauvés. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les. Frères et sœurs, le Sanhédrin a dit ces paroles au verset 13 parce qu'ils se sont rappelés que les apôtres étaient avec Jésus. Et la raison pour laquelle il y a si peu de témoignages aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a tellement peu qui passent du temps avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de vous accuser, je ne suis pas en train de vous condamner. Si vous ne faites pas partie des peu ou à côté des peu, pas de problème avec ça. C'est un cas de conscience, c'est entre vous et le Seigneur. Mais quel est le temps que vous consacrez au Seigneur? Frères et sœurs, moi j'ai dit que la télévision, de regarder la télévision, c'était pas un péché. J'ai toujours dit ça, hein? C'est vrai ou pas vrai? Oui, pour ceux qui s'en souviennent. Mais en tant que chrétien, est-ce que vous consacrez le même temps à la prière que vous consacrez à la télévision? Parce que là, c'est un péché. Ça veut dire que Dieu passe le deuxième, le troisième et le quatrième dans votre vie. Vous pouvez regarder la télévision 10 heures par jour, consacrer un minimum de 10 heures au Seigneur dans votre prière, dans votre lecture et dans la parole et dans la prière. Il n'y a personne qui va vous prêcher quoi que ce soit. Mais je suis persuadé d'une chose, si vous passez 10 heures dans la prière, dans la méditation des Écritures, vous allez être tellement fatigué que vous ne passerez plus 10 heures devant la télé. Frères et sœurs, matin, quelles sont nos priorités? Quand on regarde l'Église primitive, quelles étaient leurs priorités? Mais c'était Dieu. C'était l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie et ils étaient contents de le partager. Pourquoi ils étaient contents? Parce qu'il occupait la première place dans leur vie. Chers amis, si nous passons du temps avec Dieu dans la prière, tous le verront. Comme Moïse, nous sortirons de cette rencontre le visage rayonnant de la gloire de Dieu. Et contrairement à Moïse, cette gloire ne sera pas cachée. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous amène à dire avec Jérémie, écoutez ce que Jérémie dit, « Il y a dans mon cœur comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à me le maîtriser, mais je n'y parviens pas. » Frères et sœurs, lorsque quelqu'un permet au Saint-Esprit de régner dans sa vie, de la diriger, nous devons prendre une corde pour le retenir, pour qu'il ne retourne pas le monde à l'envers. Ma prière pour vous et moi, c'est que vous découvriez le vrai Jésus, que vous soyez habité par sa puissance dans votre vie, et qu'il transforme votre timidité, si c'est le cas, jusqu'à ce que vous deveniez un lion pour Dieu, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de honte et que l'on soit incapable de vous arrêter d'annoncer la parole de Dieu quand l'occasion s'en présente. Amen. En tout cas, c'est ma prière ce matin. J'espère que c'est la vôtre. Frères et sœurs, lorsque les chrétiens ont eu fini de prier, Dieu a dit « Amen » à leur prière par le tremblement de terre. Wow! Dieu a fait trembler la maison où ils se trouvaient. Combien d'entre vous souhaiteraient assister à une réunion de prière et le voir le bâtiment commencer à trembler à la fin de la réunion de prière, frères et sœurs? Pourquoi Dieu a-t-il fait trembler cet endroit? Eh bien, je crois que Dieu a voulu donner un signe physique pour signaler, pour souligner une grande réalité spirituelle. Lorsque Jésus, et on va terminer avec ça, hein, il me reste 5 minutes. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Dieu a proclamé un Amen à travers le tremblement de terre parce que c'était un événement qui secourait le monde. Ceux qui ont lu leur Bible, vous savez que quand Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre. Dieu, c'est la façon pour Dieu de dire Amen. Amen. Ce serait un tremblement de terre. C'est un événement qui bouleverserait le monde à tout jamais. Lorsque Jésus est ressuscité, il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, verset 2, qu'il y eut un grand tremblement de terre. Dieu a dit amen à la résurrection de son cher fils à travers un tremblement de terre, frères et sœurs. Parce que c'était un événement qui secourait également le monde, qui donnerait de l'espérance au monde. Et ici, au verset 31, lorsqu'ils eurent terminé de prier, un grand réveil spirituel se produisit, parce que lorsqu'ils ont prié, ils étaient remplis du Saint-Esprit, et Dieu a dit aussi amen à leur prière à travers un tremblement de terre. Frères et sœurs, c'est extraordinaire, non? Je vous dis pas qu'à chaque fois que vous allez prier, il va y avoir un tremblement de terre. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pas dans la parole. Nous découvrons ensuite que Dieu n'a pas seulement dit amen à travers un tremblement de terre, mais qu'il a manifesté sa faveur d'une manière toute puissante. Il est écrit au verset 33 qu'une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce de Dieu est toujours quelque chose d'énorme, mais il semblerait que Dieu a accordé une grâce toute particulière à l'Église primitive. Et frères et sœurs, Dieu montrera la même faveur à notre Église si nous sommes prêts à relever le défi de prier comme il priait, jusqu'à ce que la présence et la puissance de Dieu descendent sur nous et nous secouent dans ce lieu, jusqu'à ce que les ondes de choc se répercutent sur le pays et sur les gens autour de nous. Que Dieu puisse accomplir cela dans ma vie, dans votre vie, dans notre Église et dans ce pays. Amen. Prions.